Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous le père Maximiliano Herraiz, qui est un spécialiste mondialement reconnu de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, qui est un père carme espagnol. Il a publié dans les années 80 le fruit de sa thèse sous le titre « Solo Dios Basta », une synthèse de l'itinéraire thérésien. Et puis aussi, parmi ses nombreux livres, L'oraison, histoire d'amitié, un thème qui lui tient à cœur. L'oraison, non pas comme exercice à faire, mais comme relation, amitié avec Dieu. Il a eu la possibilité de vérifier l'universalité du charisme thérésien. Il a passé 12 années en Côte d'Ivoire. Et puis, il est sollicité pour donner des conférences en divers endroits du globe, en Argentine, prochainement à Taïwan, en Corée aussi. Il me disait combien il était frappé de voir la fécondité du charisme thérésien en Corée. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous et de nous parler des lignes structurantes de la sagesse de vie thérésienne.
J'ai fait un double sacrifice, lire mon test. Je suis capable de lire ce que j'écris, parce que j'ai corrigé tout. Alors, à ce moment-là, j'ai fait le sacrifice de parler en lisant le test que j'ai préparé. Et c'est double sacrifice. Alors, ça va produire de bons effets. Je commence toujours pour vous dire que Thérèse a commencé à expérimenter l'expérience, la réalité de l'expérience humaine, et à partir de cette expérience, elle a vécu la relation avec Dieu. Et c'est comme ça qu'elle traduit l'oraison comme traité d'amitié, étant celle à celle avec celui dont nous avons aimé. Et il va finir, et je finirai ce soir aussi, s'il me permet le temps, pour dire qu'il faut apprendre à étendre et approfondir nos relations personnelles pour avoir le vrai fondement de notre rapport avec Dieu. Si nous ne sommes pas des amis, on ne peut chercher l'amitié avec Dieu. Serait un château intérieur édifié sur les sables. Alors, l'expérience personnelle de Thérèse, un petit mot seulement. Notre mère Thérèse, je ne suis spécialiste de Thérèse, je ne suis pas spécialiste d'une femme. Je suis amoureux d'une femme. Je dis toujours la même chose. Bien alors, c'est mot seulement, et comme quelques-uns ont dit quelques mots en espagnol, je me permets de dire aussi quelques mots en espagnol. Notre mère Thérèse dit dans le numéro, le chapitre 8, numéro 8 du Livre de la Vie, « Je m'efforçais de trouver un peu de loisirs et de temps à passer en sa compagnie. » Voici la traduction française. Le texte thérésien, « Pour qu'il était avec moi. » Moi, Thérèse, j'ai présent un petit peu de temps pour qu'il soit avec moi. Dans la langue, de pour être avec lui. Non, pour qu'il soit avec moi. Entre être avec, vivre avec, d'accueil et de don. Voici l'essentiel de l'oraison amitié. Le reste, l'expérience agréable ou désagréable, le temps, le lieu, c'est accidentel, relatif. Ce qui fait la valeur de l'oraison, c'est l'accrochage amoureux interpersonnel. Conseil thérésien pour lecteur adulte. Attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Ni dans la chapelle, ni chez la rue. Là où, de préférence, s'enflamme davantage votre amour. Ce qui attirera le plus, qui rendra la relation avec l'autre, Dieu et notre prochain, plus gratuite, fais-le, cultivez-le. Voici comment elle exhorte intensément le débutant pour qu'il commence bien le chemin de l'amitié avec Dieu. Il faut entrer dans la carrière sans penser aux consolations. Ce serait une manière trop basse d'entreprendre la construction d'un édifice si magnifique et si élevé, c'est-à-dire la personne en relation d'amitié avec Dieu. Ceux qui construisent sur le sable de l'autocomplaisance, de l'égocentrisme, verront crouler les bâtiments. Un peu plus loin, elle s'exprime en positif. Embrassez la croix que votre époux a portée et comprenez bien que c'est à cela que vous devez tendre. Quant au reste, que ce soit pour vous accessoire. Si nous considérons maintenant Dieu qui est en relation avec nous, regardez, dit-elle, combien il trouve de satisfaction à notre compagnie. Notre bon maître attache un tel prix à notre amour. Elle écrit dans les dernières pages du livre de demeure, vraiment, quand cette voix de l'horizon ne nous apporterait d'autre avantage que celui de connaître les soins tout particuliers que Dieu veut bien prendre de se communiquer à nous et comment il nous prie, car c'est bien cela de demeurer avec lui. Dieu nous prie de demeurer avec lui. Entre deux personnes qui s'aiment, la plus active est celle qui aime le plus. Et c'est pour cela que la plupart de l'horizon thérésienne nous parle de l'horizon passif, ça veut dire où on commence à expérimenter l'action de Dieu sur nous, la force de son amour. Et nous toujours, nous traitons de répondre. Mais c'est lui, le champ, le principal de la prière, de la rencontre d'amitié. Nous avons vu comment Thérèse décrivait ou définissez l'horizon. Je le vous dis par cœur, selon moi, l'horizon mental n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent. C'est la seule avec celui dont nous avons aimé. Remarquons que ici, elle se réfère expressément à un particulier, à l'acte de l'horizon. Mais l'amitié couvre, remplit toute notre vie, pas seulement le moment où nous sommes seul à seul avec Dieu. J'accorde également une valeur extraordinaire, sans pouvoir expliquer pourquoi à ce moment-là, de recentrement à l'essentiel, à cet autre texte avec lequel Thérèse commence son magistère sur l'horizon amitié. Dans le chapitre 11, numéro 1 du livre de la vie, parlons maintenant de ceux qui commencent à être les esclaves de l'amour, car tel est, selon moi, le ressort des âmes qui se déterminent à suivre par le chemin de l'horizon celui qui nous a tant aimé. Alors, pour le chemin de l'amour, pour le chemin de l'amitié, à celui qui nous a tant aimé. Cette caractérisation de la vie spirituelle comme une suite, dis-je-ci, comme être le serviteur de l'amour, exige une pédagogie adéquate, celle que Thérèse approfondira dans le chemin de perfection, et je vous dirai une petite chose. J'explicite maintenant quelques traits essentiels de l'amitié. On a parlé de la grâce. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est Dieu. Et on nous disait que c'est la grâce incréée. Et les autres, qu'est-ce que c'est? Les grâces. Les caresses, plus ou moins fortes. C'est l'amour de Dieu, c'est Dieu la grâce. C'est Dieu l'amour. C'est lui qui se communique et l'objectif qu'il perçoit, c'est de nous attirer dans les rapports avec lui. Alors l'amitié, Sainte Thérèse fait mémoire que Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Donc on peut parler d'amitié avec Dieu. Et en plus, Dieu lui-même a pris notre condition humaine. Alors la plus forte raison pour pouvoir parler d'amitié avec Dieu. Et j'ai dit cela parce que une fois, le 1982, un prêtre qui était là au fond, dans une université espagnole, que je donnais le cours, alors selon toi, Dieu est un amigacho. Ça veut dire, celui qui va avoir de la bière, du vin, partout, c'est un amigacho. Mon père, je ne dis cela, mais tu as fait un très bon extrait de ma conférence. Mais ça veut dire que l'image de Dieu était brisée dans la tête de cœur de ce prêtre. Bien, alors, voici quelques traits de l'amitié théologique et aussi anthropologique. J'attire et j'attirerai toujours l'attention si c'est que fait l'essence de recueillement dont nous parle notre maîtresse d'amitié. Elle l'exprime par les mots suivants qui sont comme une redéfinition de celle qu'elle nous a donnée et que j'ai citée au début de ce point. Dans l'horizon recueillement, l'âme sent alors qu'elle s'affermit et se fortifie au dépens du corps. Ça veut dire quand tu es libre pour choisir à partir de ton intérieur, tu es déjà dans l'horizon de recueillement. Ce n'est pas un endroit solitaire, mais la force du cœur pour pouvoir vaincre la force de sens et de passion qui nous conduisent depuis notre naissance, pendant l'adolescence et la jeunesse, et peut-être plus fortement encore dans la vieillesse. Alors, Thérèse, c'est comme tous ceux d'entre nous qui nous sont que nous arrêtons parfois un instant pour examiner notre vie, que nos sens sont accoutumés à se répandre, si habitués à vivre au milieu des choses extérieures, que nous risquons de ne plus nous retrouver nous-mêmes dans notre propre demeure, dans notre foyer intérieur, que nous n'avons pas commencé à rentrer à nous-mêmes, où se trouve Dieu, qu'il est temps de ne plus fréquenter des maisons étrangères, exilés que nous sommes de nous-mêmes, en demeurant dans la superficialité, dans la périphérie de nous-mêmes, nous ne forgeons pas une amitié véritable. Nous approchons quelqu'un pour fuir la solitude et nous parlons parce que nous ne supportons pas le silence. Thérèse, femme qui revendique sa condition féminine, illustre sa pensée sur la dispersion avec une comparaison tirée de la vie des femmes. Représentez-vous une épouse qui a quitté l'épouse, a quitté son époux, à l'envers. Petit à petit, avec patience et persévérance, il doit rentrer au foyer de la relation interpersonnelle. Revenir à soi en revenant à l'autre, c'est revenir aux relations interpersonnelles à l'intérieur, dans l'espace où Dieu nous donne rendez-vous, et revenir à notre condition sociale communautaire. Ne vous imaginez pas qu'il n'y ait que du vide au-dedans de nous. Nous dit dans le chapitre 28 du chemin de perfection, si ce point et la vue sont ignorants d'antan, je comprenais bien que j'avais une âme, mais l'estime que mérite cette âme, mais la dignité de celui qui l'habitait, voilà ce que je ne comprenais pas. Si j'avais compris, comme je le fais maintenant, d'un si grand roi, qu'un si grand roi habite ce petit palais de mon âme, il me semble que je ne l'aurais pas si souvent laissé seul. La personne humaine est le palais de Dieu. Et le point capital, c'est de lui en faire un abandon complet. Les données sont château intérieur. C'est l'amour que Dieu nous donne qui nous rend capables de lui répondre. Dieu m'aime d'abord pour pouvoir ensuite enlever sans abîmer la personne. Ça veut dire Dieu précède et nous suivons. C'est le refrain de Saint Thérèse et de Saint Jean de la Croix. Encore dans la défense de mon doctorat, je n'ai pas payé, alors je ne suis docteur, parce que je n'ai pas payé les titres. Reste dans l'université où je l'ai fait. Mais le professeur me dit, mais tu dis que tu es toujours devant nous? Bien sûr, pas derrière. Tu vas dans une relation interpersonnelle, celui qui va d'avant, qui aime le plus, et l'autre continue à suivre un peu comme il peut le faire. Mais Dieu précède toujours. La mystique prépare l'ascétique, pas à l'envers. Pas à l'envers. Bueno. Alors, le chapitre 26 du chemin de perfection conclut ainsi, avec cette synthèse serrée de l'acte d'oraison et de la vie en amitié. Parabole de ce que doit être la vie des personnes que nous sommes, sociales de naissance. Placez-vous donc après de notre bon maître bien résolu à apprendre ce qu'il vous enseignera. Prenez bien garde, regardez, non, le mot qui sort de la bouche divine, Dieu nous enseigne le notre Père qui est au ciel, non? De la première, notre Père, vous comprendrez l'amour que votre maître vous porte. Certes, ce n'est pas un médiocre avantage, ni une faible joie pour un disciple de se voir aimé par son maître. Quand je sais que tu m'aimes, je suis très réceptif. J'accueille tout. Comme une éponge. Mais si je ne crois que tu m'aimes, je suis un mur. Ça, c'est clair. C'est génial, Thérèse. Ce qui est premier, la grande expérience personnelle qui nous marque et nous ouvre à la vie, c'est de se savoir ou de se croire aimé. Nous commençons à être vraiment des personnes, on commence à répondre quand on se connaît aimé. En souriant à notre maman ou en pleurant. Thérèse se réfère toujours à ce savoir aimer quand elle parle du grand bien de l'oraison. Seulement dans le rapport interpersonnel, on connaît d'être aimé. Seulement dans le rapport personnel. Alors, on ne connaît pas que Dieu nous aime par le oui-dire. Tu peux rester athée, incroyant. Même si tu écoutes le mot, Dieu t'aime beaucoup. Amour qui génère la connaissance expérimentale et qui s'imprime dans le cœur. Voici un verbe très utilisé par Thérèse de Jésus. Imprime. Ça commence à former partie de notre personnalité. On n'oublie jamais si on a eu une expérience d'amitié. Même si c'est brisé. Mais on toujours aura ce que c'est l'amitié, parce qu'on l'a pris par expérience. Bien, on va laisser cela. La pédagogie de l'organe, ou la pédagogie de l'ami, je vous dis que notre mère Thérèse jamais utilise le verbe faire au raison. Jamais. On fait des sommelets, par exemple, mais pas d'amitié. Thérèse se soucie beaucoup plus de l'éducation de l'organe, de l'ami, que de la manière de faire au raison. Verbe que mentionne seulement pour advertir le docteur qu'elle ne l'utilise jamais. Thérèse parle d'avoir de l'oraison ou de traiter d'amitié. L'amitié c'est nous dans le domaine de l'être nécessaire et a dû de recréer notre être. Racine et fondement du développement de l'être nouveau, relationnel, que nous sommes par la grâce de la rédemption, naître à nouveau ou naître d'en haut, selon la traduction de la Bible de Jérusalem. Si l'être ne change pas ou n'est pas racheté, les actes que nous faisons ou nous ferons, ne seront même pas des actes humains. Non seulement ils ne construiront pas la personne, mais ils l'endommageront plutôt. Ce ne sont pas les actes qui changent l'être, mais l'être qui change ontologiquement les actes. Thérèse prend appui pour l'affirmer sur une donnée essentielle de sa foi chrétienne. Elle, les puissances de la personne, si noble par nature, est capable de converser avec Dieu, d'avoir amitié avec Dieu, capable de jouir de sa compagnie, capable d'aimer. Alors, au principe, depuis 100 ans de Descartes, je pense, donc j'existe, Thérèse avait dit « j'aime » dont j'existe. C'est le contraire. Au début du quatrième chapitre du chemin de perfection, elle se demande et nous demande, après avoir mis ses maillons d'accrochage avec les trois chapitres précédents, c'est comment nous sommes ici pour devenir de bons amis de Dieu et pouvoir vaincre les ennemis de Dieu qui sont nombreux, et nous sommes un petit groupe de bons amis de Dieu. Alors Thérèse se pose la question, vous connaissez maintenant, mes filles, la grande entreprise, le grand objectif de notre vie, dont nous prétendons venir à bout, être de bons amis de Dieu. Mais que devons-nous être? Jusqu'à quelques années, la traduction française, si dice, qu'est-ce que nous devons faire? Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne changes les lettres, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que devons nous être? Je vous le demande, pour correspondre à notre vocation humaine, chrétienne, et de consacrer dans le nouveau Carmel. Nous devons nous engager à changer les lettres. Il est clair, écrit notre mère Thérèse, que nous avons besoin de beaucoup travailler. Tenir bien ou nos pensées nous aidera singulièrement à élever avec courage nos œuvres au même niveau. Les actes seront au même niveau que l'être toujours, même si sont des signes insignifiants, comme je vous dirai après. À plusieurs reprises, elle attire notre attention sur cette dimension essentielle. Nous sommes relation avec Dieu, le toi suprême et la relation entre nous. Thérèse, maîtresse de vie, se préoccupe de former des personnes et des communautés de personnes, la nouvelle famille des fils de Dieu, de ceux qui vous aiment uniquement pour Dieu. Voici nos prochaines, les premières. Ceux qui nous sont pour Dieu seulement. Elle nous a laissé dans le chemin de perfection des textes denses de contenu qui valent plus que de nombreuses pages le martelant avec force et vigueur pour éveiller notre conscience chrétienne et même la conscience de n'importe qui. Voici par exemple le premier. Elle, Thérèse, commence ainsi le chapitre 17. 17 de semaine de perfection. N'oubliez pas, il y a 42. 17. Vous pensez que je vais enfin aborder l'horizon? Non, vous trompez. Pas du tout. Il me reste encore à vous parler d'un point très important, puisqu'il concerne l'humilité. Aussi, l'humilité. On me disait à 18 ans, avant de la profession sur le Belsig, que parce que le prieur me disait d'écrire quelque chose à la petite feuille de la paroisse, et le formateur me disait, tu dois avoir en particulier attention que tu peux devenir superbe, orgueilleux, parce que tu écris déjà. Je ne savais pas qu'est-ce que signifiait être orgueilleux. Ça c'est clair, je cherchais dans le dictionnaire, je sais pourquoi. Et après, j'ai bien appris que je ne peux être orgueilleux de mes qualités, parce que ça, ce sont des grâces de Dieu, ne m'appartiennent pas. Alors je ne peux être si sot de être orgueilleux de ce qui ne m'appartient pas. Parce que ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Alors, l'humilité, c'est marcher dans la vérité. Voici un grand changement de Thérèse de Jésus. L'humilité est marcher dans la vérité. Le chemin de la vérité, pas la vérité d'une fois pour toutes. Au chapitre suivant, c'est-à-dire 18, Thérèse, 17, au chapitre 21, elle continue à nous dire, « Ne vous étonnez pas, mes filles, qu'il faille se préoccuper de tant de choses avant de commencer ce voyage de l'horizon, amitié. C'est le chemin royal qui conduit au ciel. » Encore, « Quelles sont donc ces nombreuses choses nécessaires pour débuter le divin voyage de l'horizon amitié ?» Ne sont pas nombreuses. Je ne sais pas si j'ai écrit nombreux, mais ce n'est pas nombreux, c'est toi seulement. C'est l'amour au prochain. Le détachement de tous les créés, c'est-à-dire la libération. Et l'humilité, vérité, que bien que je l'ai dit à la fin, c'est la première de toutes, et les embrasse toutes. Alors, la consigne éducatrice de Thérèse est très simple. La vérité te rend libre pour aimer. Et ce n'est pas une quatrième chose, non. C'est le fil pour unir les trois. La ferme détermination. Il faut être ferme dans la décision de devenir de bons amis de Dieu. Ces trois choses, si nécessaires, déterminent que l'on soit ou non ami de Dieu. Et on peut ajouter que sans elles, il n'y a pas de personne humaine ni de société humaine. L'être n'est pas dans le faire, bien qu'il le réclame, tandis que le faire est bien dans l'être. Et voici, nous pouvons avoir des signes insignifiants. La contemplation, c'est un signe insignifiant. Et l'action, c'est un signe très signifiant. Mais ça n'est pas vrai. Dieu regarde l'intérieur, nous l'extérieur. Je pose la question très fréquemment, qui était beaucoup plus contemplatif, Thérèse de l'Enfant Jésus ou Thérèse de Calcutta? Et tout le monde, Thérèse de Jésus, nous ne le savons pas, mon frère. Qui a fait beaucoup plus pour les pauvres, Thérèse de Calcutta ou Thérèse de l'Enfant Jésus? Thérèse de Calcutta, nous ne le savons pas. C'est le signe, ça nous trompe. Nous ne pouvons parler que de signes. Et voici pour pur. Bien comprendre cela que notre mère Thérèse, dans le chapitre 17, numéro 6, nous dit justement, nous met la contemplative Marie et Marthe. Elle nous dit que genou doit être toujours ensemble, doivent être ensemble Marie et Marthe. Et comment? En cherchant toujours uniquement plaire le Christ, notre hôte, qui vient à séjourner avec nous, à manger et à se recréer avec nous. Alors, si c'est l'essentiel, ça veut dire que le signe n'est pas l'essentiel. Tu peux être appelé à une vocation dont le signe va révéler beaucoup plus la vie contemplative ou la vie de Marthe. Mais Dieu ne regarde pas les signes, mais l'intérieur. Alors nous devons être tous ensemble, nous dit Saint-Thérèse, de Marthe et de Marie en même temps. Voici encore pour bien comprendre, voici le texte. N'est pas d'autre chose que servir l'hôte divin, que nous importe de servir d'une manière ou d'une autre. Notre vocation est servir l'hôte divin. Que nous importe d'être contemplatif ou d'être désactif de Marthe, non. L'essentiel, l'unique, parole de Thérèse, essentiel est de servir l'hôte dans l'acte de l'oraison, dans l'action pastorale ou simplement humaine. C'est pourquoi Thérèse nous ramène avec tant d'insistance à Jésus dans le chemin de perfection. J'ai aussi la coutume de dire, ne cherchez pas dans les dictionnaires qu'est-ce que signifie amour, qu'est-ce que signifie vérité, qu'est-ce que signifie l'autre jour, j'ai cherché intérieur pour voir l'intériorité. Alors il me disait, c'est le joueur qui est entre la défense et les attaquants dans le football. L'intérieur, c'est l'intérieur d'une maison, l'autre c'est l'extérieur. C'est terrible le dictionnaire. Alors, le dictionnaire, pour nous, c'est le Christ. C'est lui l'amour. C'est lui la vérité et c'est lui l'humilité. C'est lui qui sert, toujours. Et je finirai pour vous dire aussi un test de la fin de demeure. On a écouté jusqu'à la moitié ce matin à nos frères François Régis, mais j'arrive jusqu'à la fin pour bien appuyer ce que c'est l'enseignement thérésien sur le priant ou l'ami. Notre mère conclura de la même manière son traité de demeure ou château intérieur, ou le demeure de château intérieur. Nous y offrant une magnifique synthèse et nous y remettant la clé de lecture de ce livre de toute sa spiritualité. Disons que la spiritualité thérésienne, disons de la spiritualité chrétienne tout simplement, pas thérésienne, c'est chrétienne. On va connaître que vous êtes mes disciples si vous vous aimez, pas si vous êtes baptisés par immersion, à goutte à goutte. Non, on va connaître que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Bon, alors, dans la septième de mer, chapitre 4, numéro 4, notre mère se pose la question. Savez-vous bien ce que c'est qu'être vraiment spirituel? Et on a lissé. C'est le numéro 8, pas 4. 4 fait une autre question de conclusion de toute son spiritualité. Thérèse le reformule encore plus clairement et plus directement quelque part plus loin, dont nous adressons cette question. Savez-vous bien ce que c'est qu'être de vraiment spirituel? Elle répond en mettant toute son expérience et sa compréhension du mystère du Christ et donc de la vie en lui, de ce que nous appelons être des spirituels. C'est se faire esclave de Dieu, c'est qu'il puisse nous rendre comme il a été vendu lui-même par les salis du monde. Être des esclaves de Dieu comme Jésus lui-même, des esclaves les uns des autres, dans notre service mutuel. Elle évite ainsi tout équivoque s'il sait qu'elle veut nous dire « Suis Jésus, sois lui ». Comme l'a écrit Élisabeth de la Trinité, bien que les mots ne soient pas d'elle, selon les spécialistes. Comme une incarnation du Verbe, une humanité du surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Christifier notre vie. Voici le fondement pour que le château intérieur, c'est-à-dire la personnalité humaine chrétienne, ne tombe pas dans les moments de crise. Notre mère nous dit, être les esclaves de tout. La moindre de tout. Et la servitrice de tout. C'est le fondement. À partir de cela, la construction du château intérieur va bien se réaliser. Ne tombera jamais. Et c'est pour cela qu'au soir, nous a dit Jean de la Croix, au soir de la vie, non, c'est au soir, on va être examiné si l'amour, c'est le man. Et pourquoi? Parce que Dieu, en étant amour, ne connaît un autre langage. Alors il va demander si l'amour, pas à lui, mais au frère, au semblable. Voici le charisme du christianisme et le charisme unique. Les autres sont charismes dans la manière concrète de traduire cela. Mais l'unique charisme du christianisme, c'est l'amour au prochain. Parce que Dieu a tant aimé le monde d'envoyer son Fils pour nous montrer justement qu'il nous aime. Et nous devons continuer la présence de Jésus en tant que sacrement ou désigne, crédible de que nous sommes à la suite de Jésus, que nous sommes des chrétiens, des hommes qui se donnent aux autres comme lui-même s'est-il donné. Alors, dans la pédagogie thérésienne, il faut insister dans les trois choses si nécessaires. L'amour au prochain, le détachement, libération de tous ces esclavages et aussi marcher dans la vérité, chercher toujours la vérité. Parce que jamais la chercher pour la vivre, pas pour la savoir. Afin que nous soyons vraiment des images de Dieu, mais si nous prions en silence ou si nous sommes engagés dans des choses vraiment très importantes dans notre société. Ce qui compte, c'est le cœur, la qualité de notre amour. Le reste est toujours accidentel, accessoire, comme dit Thérèse dans la quatrième de mer. Bien, alors j'ai fini avec les mots que j'ai déjà cités dans le chapitre 11 du livre de la vie, où notre mère commence à nous donner la clé pour expliquer le changement qu'elle a expérimenté. D'être en guerre avec Dieu, infidèle à Dieu, Dieu toujours fidèle, et à ce moment-là commence à être vraiment une bonne amie. Alors, il commence la deuxième partie du livre de la vie, chapitre 11 jusqu'au 31. Parlons maintenant de ceux qui commencent à être les esclaves de l'amour, car tel est, selon moi, le ressort des âmes qui se détermine à suivre par le chemin de l'or et son amitié celui qui nous a tant aimé. Voici la clé de lecture de notre mère Thérèse. En disant amitié, on dit tout. Au-delà du signe qui traduit notre amitié avec Dieu, qui doit être toujours fondé sur l'amitié entre nous. Et c'est tout. Je ne veux pas qu'il me montre que je suis en train de finir le montant. Alors, j'ai fini. à ce moment-là, ici, après j'ai la conférence, je la vous donnerai tout entière, parce que je l'ai écrit trois fois dans les mêmes feuilles, en corrigeant toujours ce que j'en avais là-bas. Bien, alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette conférence faite en français. Et merci de nous avoir montré ce chemin de l'amitié avec Dieu qui passe aussi par l'amitié avec le prochain, de réalité inséparable. Et vous nous ouvrez la voie aussi pour le deuxième conférencier de cet après-midi, le père Christophe Betschart. Et nous voyons comment s'articulent les différentes conférences de notre colloque.